Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Je crois que certaines versions ont tente de la rencontre avec Dieu. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait à Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Voilà, Moïse jouissait d'une communion exceptionnelle avec Dieu. Puisqu'il est dit là que Dieu parlait avec lui face à face comme un homme parle à son ami. Et dans certains textes, il est même dit que il voyait une représentation de l'Éternel, pas Dieu dans sa plénitude de gloire, puisque c'est la chose impossible, mais il voyait une représentation de l'Éternel. Donc une communion exceptionnelle, remarquable. Mais ce matin, ce n'est pas tant de Moïse que je veux vous parler, mais plutôt de son jeune serviteur, Josué. Et la fin du passage que nous venons de lire nous dit que Josué, donc le jeune serviteur de Moïse, qui l'accompagnait dans la tente, dans le lieu de la rencontre avec Dieu, ne sortait pas du milieu de la tente. D'autres traductions disent ne bougeait pas du milieu de la tente. Il était là, voyez, dans la présence de Dieu. Et ce garçon, cet homme, sur les traces de Moïse, avait appris un secret que nous ferions bien d'apprendre nous aussi. Il avait appris à aimer, à apprécier, à désirer, à chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu. Remarquez ceci, ce n'est pas Moïse qui le lui imposait. Il lui disait pas, Josué, tu vas rester là. Allez, tu vas me faire une heure de prière. Non. Mais souvenez-vous qu'il avait accompagné Moïse sur la montagne du Sinaï, Josué. Lorsque les tables de la loi avaient été communiquées, et là, sur les traces de Moïse, sur la montagne du Sinaï, il avait appris à trouver sa joie, à trouver son bonheur, à trouver son plaisir, à trouver sa satisfaction la plus grande dans la présence de Dieu. Et vous voyez, c'est important ça. C'est un aspect important de la vie chrétienne, acquérir le goût de la présence de Dieu. Le goût de la présence de Dieu. L'apôtre Pierre dira dans son épître, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont goûté que le Seigneur est bon? Est-ce que dans certains moments peut-être particuliers de votre vie, vous avez apprécié d'une manière spéciale la présence de Dieu, voyez? Tiens, puisque nous parlons de l'apôtre Pierre, on pourrait évoquer ce fait qui est relaté dans les évangiles où Jésus a amené trois d'entre ses disciples, donc Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, donc, s'est manifestée d'une manière particulière. Et Pierre a pu dire à son maître, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Vous savez qu'il est bon que nous soyons dans la présence de Dieu. Il est bon que nous soyons dans la présence de Dieu. C'est ce qui donne de la saveur. C'est ce qui donne du sens à la vie chrétienne. S'il n'y a pas ça, quoi. S'il n'y a pas cette relation authentique, certaine, s'il n'y a pas ce contact effectif avec le Seigneur lui-même, alors la vie chrétienne devient, je sais pas, une série de règles, une série d'obligations fastidieuses, routinières, qui finissent par être vides de sens. Sans la présence de Dieu, nous devenons des religieux, dans le plus mauvais sens du terme. Mais mes amis, Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux, mais des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui connaissent Dieu. Et je crains, voyez-vous, qu'un certain nombre de ceux qui s'affirment pourtant en tant que chrétiens, qui affirment être des chrétiens, n'aient peut-être jamais, ou alors si peu, ou alors s'il y a si longtemps, goûté à la présence de Dieu. Et pourtant, dans un psaume rédigé par David, il dira ceci, « Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Me permets de vous lire une autre traduction, la version d'Arbin dit ceci, « Ta face est un rassasiement de joie, des plaisirs à ta droite pour toujours. » Voyez, je ne sais pas où vous trouvez votre plaisir, je ne sais pas où vous trouvez votre satisfaction la plus grande, mais je peux vous dire que la plus grande des satisfactions, le plus grand des bonheurs, le plus grand plaisir que l'on puisse trouver pour notre âme, ce qui fait du bien réellement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et puissions-nous trouver, vous et moi, conserver, ou peut-être même retrouver, le goût de la présence de Dieu. J'aimerais voir un petit peu, la liste n'est pas limitative, mais quels sont quelques-uns des bienfaits qui en découlent de cette présence divine. Tenez, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, si vous le voulez, vous pouvez lire avec moi ce qui est écrit, deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit ceci, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Il y a une évocation dans le passage qui précède de ce qui se passait justement avec Moïse lorsqu'il rencontrait Dieu. Voyez, la gloire de Dieu dans sa présence se reflétait jusque sur son visage. À tel point que pour ne pas impressionner les autres membres du peuple, lorsqu'il sortait de la présence de Dieu, il mettait un voile qu'il notait que lorsqu'il était en communion avec le Seigneur. Et la parole de Dieu fait allusion à cela en disant que nous, il n'y a pas de voile, c'est le visage découvert, que nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés, non pas simplement notre visage, mais nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, nous en venons à ressembler au Seigneur. À ressembler au Seigneur. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a ce passage, Philippiens 2, vous vérifierez, où il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Vous connaissez ce passage peut-être. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et dans cette idée de sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est pas simplement l'aspect sentimental. Non. Ça va plus loin que ça. C'est sa forme de pensée, son état d'esprit, sa mentalité et les actions et les réactions qui en découlent. Eh bien ça s'acquiert, ça se reçoit dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes imbibés, si je puis m'exprimer ainsi, de la présence du Seigneur, il y a quelque chose de lui qui passe en nous. Nous sommes transformés, nous changeons de forme, nous changeons de mentalité, d'état d'esprit, d'action et de réaction. Nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés. Nous ressemblons au Seigneur dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans les bouquins que vous trouverez ça. Ce n'est pas dans des DVD de prédications, de grands prédicateurs, béni soit Dieu pour les grands prédicateurs. n'est pas sur les sites internet chrétiens que vous trouverez ça. C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu aussi, on reçoit la consolation de nos peines. J'aime beaucoup ce passage où il est question dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, de Marie de Magdala qui vient vers le tombeau, vous savez, le tombeau de Jésus. Le tombeau est vide et la pauvre, elle comprend pas encore qu'il est ressuscité. Alors elle se désole et devant ce tombeau vide, elle pleure toutes les larmes de son corps. Quelqu'un apparaît, c'est Jésus ressuscité, mais ses yeux ne le reconnaissent pas. Elle croyant que c'est le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu as pris son corps, bien, dis-moi où tu l'as mis, afin que je l'emporte. » Et puis le Seigneur l'interpelle. Voyez, simplement, il lui dit, « Marie. » Et au son de sa voix, dites, au son de sa voix, c'est caractéristique la voix de quelqu'un. Hein? Lorsque quelqu'un nous téléphone, des fois, il n'a pas besoin de se présenter, on a déjà compris qui c'est. Hein? Et dans le son de sa voix, certainement, dans la tendresse, l'amour divin que Jésus manifeste dans sa interpellation, Marie, elle comprend qu'elle a affaire au Christ ressuscité. Rabouni, tu es vivant. Est-ce possible? Et cette femme qui était dans la désolation l'instant d'avant, maintenant elle est au comble de la joie. Alléluia. Consolée par la présence de Dieu. Par la présence de Jésus. Dans la présence de Dieu, on acquiert aussi de la puissance dans l'intercession. Quand l'Esprit nous saisit, amen, et j'espère que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, ne vous est-il pas arrivé où il y a eu des moments où l'Esprit vous a saisi, vous étiez dans sa présence, et vous avez prié, mais prié avec une énergie qui vous dépassait vous-même, peut-être avez-vous même prié en langue. Vous avez intercédé, selon Dieu, par des soupirs inexprimables, dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, Abraham, hein? Le Seigneur lui apparaît, là, avec deux de ses anges, c'est formidable ce passage. Hein? Abraham qui reçoit, dites, Dieu à sa table, ça vous arrive pas tous les jours, ça. Hein? Il reçoit Dieu qui a pris forme humaine, avec deux de ses anges, qui l'accompagnent à sa table. Il leur sert le méchoui, hein? La crème, le lait, tout ça, le pain, Dieu à sa table. J'ai peine à imaginer ça. Et puis, voilà, le repas se termine. Et puis, ils continuent leur chemin. Et Dieu se fait cette réflexion. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est pas possible, Abraham, c'est mon ami. Et il lui révèle qu'il est venu. Enfin, il envoie ses deux anges pour détruire Sodome et Gomorre, ville où règne le péché. Et Abraham, vous lirez dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 19, quelque chose comme ça, et il est dit ceci, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Vous voyez? Il n'a pas dit, bon, je fais mon petit quart d'heure de prière, et puis ça ira comme ça, parce que j'ai autre chose à faire. Hein? Faut que je m'occupe du troupeau. Faut que je donne le travail à mes serviteurs. Alors, Seigneur, tu comprendras, je suis pressé, hein. J'ai un petit quart d'heure à te consacrer, pas une minute de plus. Non, il se tint encore, dans la présence de l'Éternel. Et là, il a intercédé pour Sodome, dites. Hein, dans la présence de Dieu, il a intercédé. Et il a dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, tu vas pas détruire la ville quand même. Et puis s'il n'y en a que 45, et puis s'il n'y en a que 40, et puis que s'il n'y en a que 30, et puis que 20, et puis que 10. Et chaque fois, Dieu cède à sa demande. C'est formidable, hein? La puissance de l'intercession. Alors on pourrait dire, mais ça n'a pas marché. Sodome a été détruite. Si, ça a marché. Parce que dans Sodome, il n'y avait pas 10 justes, il y en avait un. Et le texte plus loin nous dit que quand Dieu bouleversa les villes de la plaine, il fit échapper Lot du désastre et Dieu se souvint d'Abraham. Dans la présence de Dieu, cet homme a été puissant dans l'intercession. Et mes amis, ça peut nous arriver, alléluia, à nous aussi, si nous sommes accoutumés à vivre dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu encore, les doutes se dissipent. Ça vous arrive de douter? Bon, alors, je suis le seul, moi. Hein? Alors venez voir après, hein, vous défilez tous et vous m'expliquez comment vous faites pour ne jamais être dans la confusion, pour être toujours au top du top de la forme spirituelle. Mais non, ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on se pose des questions. Hein, Thomas, les disciples tout émoustillés lui disent « Nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité !» Et Thomas reste de marbre ou de glace, comme vous voulez. Un vrai frigidaire, hein? Congelé dans son âme qu'il est. Et moi, si je ne touche pas, et si ceci, et si cela, et si pas le reste. Et 8 jours après, la présence de Jésus se manifeste. Et là, Thomas, dans la présence de Dieu, il est convaincu. Amen. Ses doutes s'estompent, disparaissent, fondent comme neige au soleil. Mon Seigneur et mon Dieu, lui qui avait tant douté, il est le premier à confesser que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. La présence de Dieu. Nos doutes sont dissipés. La confusion qui peut-être embrouille nos pensées se dissipe. Et nous apprenons à adorer le Seigneur et à lui faire à nouveau pleinement confiance. Dans la présence de Dieu, les questions sans fin, les interrogations stériles cessent. On retrouve la quiétude, la sérénité, même si on n'a pas encore tout compris. Vous vous rappelez Job, hein? Qui n'y comprenait plus rien, le pauvre malheureux. Et on comprend qu'il ne comprenait pas avec tout ce qui lui arrivait. Mais à la fin du livre, il est dit, n'est-ce pas, que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il y a eu tout un débat tout au long du texte entre Job, ses 3 amis, puis il y en a un 4e qui débarque là, Élie, et sa palabre, comme on sait le faire en Orient, sa discutaille. Et Job, il trouve pas de réponse à ses interrogations. Et puis la présence de Dieu se manifeste. Et Dieu ne lui explique pas les choses par A plus B. Mais il se révèle à lui. Et à la fin de cet entretien avec Dieu, Job est quelque part rassuré, consolé. Il retrouve sa sérénité. Il dit, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Dans ta présence, Seigneur, j'ai peut-être pas résolu tous les problèmes, eu les réponses à tous les pourquoi du comment, mais Seigneur, j'ai trouvé celui qui est la réponse en lui-même. Je t'ai trouvé à toi, dans la présence de Dieu. Son âme a été rassurée. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui vous arrive ou qui vous est arrivé récemment, et tant de pourquoi. Il y a de fortes chances à parier que vous n'aurez pas la réponse. Mais entrez dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, votre âme retrouvera son calme et sa sérénité. Il y a un moment où Dieu agit au plus profond de notre cœur, alléluia, dans sa présence et où les nuages se dissipent et où le soleil de justice vient briller sur notre vie et dans ses rayons il y a pour notre âme la guérison, que son nom soit béni. Dans la présence de Dieu, on reçoit la plénitude de l'Esprit pour un service efficace. Tiens, nous parlions de Josué, et si vous lisez dans le livre des Nombres, au chapitre 27, verset 18, il y a cette précision à propos de Josué. Il est dit, Josué, homme en qui réside l'Esprit. Homme en qui réside l'Esprit. Il s'agit bien sûr de l'Esprit de Dieu. Et ce garçon, cet homme, Josué, il a reçu là, dans la présence de Dieu, la puissance de l'Esprit qui lui a permis de devenir un serviteur efficace, parce que c'est Josué qui a mené à bien la conquête du pays de Canaan. C'est lui que Dieu, en sa souveraineté, a placé à la tête de l'armée d'Israël pour régler leur compte aux Cananéens et pour que le pays promis soit conquis. Parce que cet homme était rempli du Saint-Esprit, il fut un conquérant. Aujourd'hui, nous avons des conquêtes spirituelles à réaliser. Alléluia. Il nous faut gagner cette ville, il nous faut gagner ce pays à la cause de l'Évangile. Il y a encore des hommes à sauver, c'est possible. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et nous allons l'acquérir dans la présence de Dieu. Alléluia, dans la présence de Dieu. Et puis, dans la présence de Dieu aussi, l'état de notre cœur nous est révélé. Nous est révélé. Vous savez, des fois, on a une certaine cécité spirituelle sur notre propre situation intérieure. Et il y a un verset dans le psaume 90, au verset 8, qui dit ceci, « Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Il y a des moments où c'est pas possible, ça peut pas être un frère ou une sœur qui vient nous dire « Ça va pas dans ta vie, il y a quelque chose qui coince, regarde ceci, regarde cela. » C'est pas nécessaire que ce soit forcément le pasteur, mais si nous entrons dans la présence de Dieu, il y a un moment où, avec tellement d'amour, de grâce, de persuasion, le Seigneur va nous révéler ce que nous devons corriger. Et il y a tant de choses, vous en conviendrez, à corriger, à redresser dans notre vie. Ça ne remet pas en cause notre salut, ça. Ça fait partie de la sanctification. Et nous connaissons ces versets qui disent que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais c'est ça. Dans la présence de Dieu, nos yeux s'ouvrent sur notre condition personnelle, sur notre intérieur, sur peut-être des pensées, des sentiments, des attitudes de cœur que nous avons refoulées, mais qui pourtant ne sont pas la gloire de Dieu. Alors on peut lui apporter cela. On peut lui dire, Seigneur, pardonne. Et non seulement pardonne, mais fais le ménage pour que ça change dans mon cœur. Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. C'est vrai, il faut le dire, il y a des éléments qui éloignent la présence de Dieu de nous et qui nous éloignent de sa présence. Rappelez-vous le triste exemple de Samson. Samson qui a trop longtemps, comment on va dire ça, flirté avec le péché. Il avait un problème, Samson. Oui, il était rempli du Saint-Esprit, c'est paradoxal. Oui, il faisait des exploits par l'Esprit pour la cause de Dieu. Mais il était aussi terriblement sensuel. Et il n'a jamais voulu régler finalement ce problème, croyant qu'il pouvait jouer sur les deux tableaux, voyez, les succès, les grandes batailles, les grandes victoires qu'il a vécues, lui donner l'impression que il pouvait s'accommoder de cette situation, puisque ça marchait, puisque le succès était là, puisque la réussite était au rendez-vous, puisque les ennemis étaient battus à plat couture, lui s'en sort, puisqu'il était saisi par l'esprit. Si de temps en temps il se permettait une incartade, c'était pas trop grave, pensait-il. Mais mes amis, nous devons savoir quelque chose, c'est que Dieu ne s'accommodera jamais du péché. Dieu ne s'accommodera jamais du péché. Nous ne pouvons pas l'amener à nous dans ce sens-là, mais il nous faut un moment ou un autre capituler. Ou alors, il nous arrivera la triste mésaventure qui est arrivée à Samson. Delilah l'a endormi sur ses genoux. Elle a taillé les tresses de sa tête, qui était le signe de sa consécration. La force n'était pas dans les cheveux. La force dépendait de sa consécration. Et quand le signe de la consécration et la consécration qui va avec ont été ôtés, la force l'a quitté. Et quand on lui a dit « Les ennemis sont sur toi », il s'est réveillé en disant « Non, oh, pas de problème. Je m'en tirerai comme les autres fois. » Et le texte dit « Il ne savait pas. » Ça n'est même pas rendu compte, le pauvre malheureux. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et ce jour-là, ce fut une fois de trop. Les ennemis l'ont saisi, lui ont crevé les yeux. C'est affreux. Ils en ont fait un esclave. qui tournait la meule dans la cour de la prison. Mon frère, ma sœur, si tu connais peut-être la bénédiction, même dans ton service pour Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans ta vie spirituelle, je t'en prie, ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu, surtout le feu de l'enfer. Hein. Mais repens-toi, afin que la présence de Dieu ne te soit pas ôtée. Qu'est-ce qui peut nous priver de la présence de Dieu? Je dirais, non pas uniquement le péché en tant que tel, mais la négligence. Vous savez, dans les évangiles, il y a cette histoire particulière de ce qui s'est passé lorsque Jésus avait 12 ans. 12 ans. Il est monté avec Joseph et Marie, comme chaque année, à Jérusalem, du petit village de Nazareth, pour célébrer la Pâque. Et puis, lorsque la fête pascale s'est terminée, toute la famille est repartie. Enfin, du moins, les parents le croyaient-ils qu'il était parti, qu'il était par là. Et moi, je suis toujours étonné, parce que mes amis, si j'avais fait un voyage comme ça, sur le retour, je me serais assuré que mon gamin, il était bien là, pas vous? J'aurais pas dit, oh, il doit bien être avec quelqu'un par là. Non. Moi, j'aurais voulu qu'il soit là, l'avoir sous les yeux, un enfant de 12 ans, quoi. On ne laisse pas le gourir et gamander n'importe où. Mais une certaine désinvolture, ils ont cru qu'il était avec leurs compagnons de voyage, par-ci, par-là ou ailleurs, pas de problème. Et quand même, au bout d'un temps, ils se sont inquiétés. Jésus n'était pas là. Alors, panique à bord, j'imagine. Ils sont revenus en courant à Jérusalem. Hein. Et là, ils l'ont cherché pendant 3 jours. Wouh ! 3 jours. Vous imaginez les pères et mères là ? Vous cherchez votre gosse pendant 3 jours et 3 nuits. Hein. C'est long. L'angoisse, je vous dis pas. Il n'y avait pas les services de la police municipale. Hein. Non, ça n'existait pas. Ils l'ont cherché partout, sauf là où il était. Dans le temple. Ils avaient perdu Jésus. C'est terrible de perdre Jésus. Tu me au moins le sens de sa présence. Il y a eu là de l'irresponsabilité, une faute de négligence. Voyez, que ça nous serve de leçon, il nous faut vérifier, il nous faut veiller tout au moins plutôt à entretenir, à cultiver, à maintenir cette présence. C'est tous les jours qu'il faut revenir, cultiver la présence de Dieu en nous, n'est-ce pas ? C'est tous les jours qu'il faut venir au pied du Seigneur et lui dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton contact. Plus même de l'air que je respire, de l'eau que je bois, de la nourriture que je consomme. J'ai besoin de ta présence. Tu es mon atmosphère spirituelle. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas négliger ça. Je ne veux pas perdre Jésus. Je ne veux pas perdre Jésus. Alors, comment bénéficier de la présence de Dieu? Nous devons comprendre ceci, c'est que le Seigneur est désireux de nous accorder sa présence. On ne doit pas essayer de le persuader. Il est tout à fait convaincu, lui. En fait, lui-même désire, apprécie notre présence à nous qui sommes ses enfants. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62, verset 5, il est dit ceci, « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » C'est pas beau ça? Vous connaissiez ce verset? Mais maintenant vous le connaissez. Hein. « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Vous vous rappelez quand vous étiez fiancé? Hein, les frères là, hein, rappelez? Quand elle arrivait, vous ne disiez pas encore elle? Oh, ah, mais il y a 3 jours qu'elle est déjà venue. Hein. Non, c'est pas ça l'amour. Waouh! Hein, il y a si longtemps que je t'avais pas vu, c'est formidable. Il y a qu'une demi-journée, mais enfin, c'est déjà trop long. Hein. Comme la joie. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Dieu désire notre présence. Dieu trouve plaisir à nous avoir dans sa présence. Dans sa présence. Il y a un pasteur qui est maintenant auprès du Seigneur. Il disait que quand il avait sous sa responsabilité un stagiaire, il avait un gars qui voulait toujours courir. Hein. Il était toujours prêt à partir faire une visite, faire ceci, faire cela. Et lui, il disait, non, tu restes là. Le nez dans ta Bible et dans la prière. Parce qu'il voulait que ce garçon apprenne ce secret de la présence de Dieu. Parce que s'il n'y a pas ça, on peut courir la terre entière et n'avoir que peu d'effets, peu de résultats. Oui, il désire notre présence. C'est pourquoi nous pouvons être assurés qu'il se laissera trouver si nous le cherchons. Jérémie, chapitre 29, verset 13, nous dit « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Au fond, on peut dire que Dieu cherche des gens qui le cherchent. Vous comprenez ? Dieu cherche des gens qui le cherchent. Alors, s'il cherche des gens qui le cherchent et si nous, nous le cherchons, on devrait finir par se rencontrer. Hein ? Certainement, certainement. Cette présence, il faut la désirer intensément. Parce que nous avons appris à la chérir et compris les bienfaits qui en découlent. Vous connaissez, je pense, ce verset du psaume 42, dans lequel le psalmiste dira, au verset 2, psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Est-ce que vous avez soif de Dieu ? Est-ce que vous êtes venu ce matin simplement parce que c'est dimanche matin, c'est le culte dominical ? Alors, pour rassurer un petit peu sa conscience, pour montrer quand même qu'on est un peu chrétien, un peu, hein, il faut venir au culte, sinon c'est la fin de tout. Non. Est-ce que vous êtes venu en disant, « Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux qu'il y ait ton attouchement divin sur ma vie. Je veux qu'il y ait ta marque. Je veux qu'il y ait ton influence. Je veux qu'il y ait ta présence. Mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vous savez, c'est en Jésus que cette soif est satisfaite. Puisque dans l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37, il nous dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il a dit ça dans un moment particulier, c'était la fête des tabernacles. Il y avait du monde comme ça à Jérusalem. Une foule considérable de pèlerins juifs qui étaient venus de tout le bassin méditerranéen pour célébrer la fête des tabernacles. Alors il y avait toutes sortes de cérémonies religieuses dans le temple. Wow, de l'exubérance. Et Jésus, par son discernement, a compris que parmi tous ces gens qui avaient offert des sacrifices et fait tous les salam alek possibles, il y avait encore des gens insatisfaits qui se disaient au fond, « Au fond, tout ça, c'est de la bigoterie, c'est de la religiosité, mais mon âme n'a pas trouvé ce dont elle a besoin. » Alors Jésus, debout sur la planète du temple, a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Si vous avez soif de la présence de Dieu, passez par Jésus. Passez par Jésus, puisque c'est lui qui a opté l'obstacle majeur, le péché. Il faut passer par lui, par son sang versé, par sa vie offerte, par sa vie sacrifiée. Et si quelque obstacle, je le répète, est encore là, il faut rejeter le péché. Il pardonne, vous savez, il libère, il accueille le pécheur repentant. Amen. Le fils prodigue qui est revenu vers le Père l'a accueilli, c'est pas les bras grands ouverts, il n'a pas dit « Non, t'en as trop fait mon gars !» C'est fini entre toi et moi. Allez arrière de moi. Retourne dans ta misère, dans ta débauche. Non, il a couru vers lui et il l'a serré sur son cœur. Et quand bien même au milieu de nous, il y aura un fils prodigue ou une fille prodigue, le Seigneur t'attend, mon ami. Et si tu reviens vers lui, il t'accueillera. Et suite à ta repentance, tu goûteras à nouveau pleinement à sa présence glorieuse. En Jésus-Christ. Amen. Je dirais aussi que la présence divine, il faut la chercher là où elle se trouve. Où est-ce que Marie et Joseph ont trouvé Jésus ?
Dans le temple.
Dans le temple. Ça va, vous savez votre catéchisme, hein, c'est bien. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. C'est quoi le temple aujourd'hui ? C'est 4 rues de Seyssel, frère. Si vous pensez ça, vous n'avez rien compris. Rien compris. Le temple, c'est vous. Et c'est moi. Sa maison, nous dit l'Écriture, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Ce n'est pas un bâtiment. Mais c'est le rassemblement des croyants. Le temple, ce sont des gens qui s'assemblent pour chercher Dieu. Et il faut que chaque fois qu'on vienne, bien sûr, il y a plaisir à se congratuler, se saluer, se demander des nouvelles les uns des autres, mais il faut que chaque fois qu'on vienne, on vienne pour chercher le Seigneur. C'est ce que Paul dit à son collègue, le jeune Timothée, dans la deuxième à Timothée, au chapitre 2 et au verset 22, voici ce qu'il lui dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, chose donc qui se trouve dans la présence de Dieu. Recherche tout ça avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alléluia. Vous savez, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que lorsque j'avais, quel âge j'avais ? 19 ans à peu près, ouais c'est ça, 19-20 ans. J'ai été entouré par une équipe de gars, de frères, qui étaient pour la plupart plus âgés que moi et qui étaient des hommes de prière, vous voyez. Et le samedi soir, on se réunissait à quelques-uns et on priait. Et ils m'ont pas dit, Alain, quand tu pries, tu fais comme ça, tu parles comme ça et tu dis ceci et cela. Mais ils m'ont boosté, pauvre. Ils m'ont donné le goût de la prière, le goût de la présence de Dieu. On cherchait le Seigneur ensemble et que c'était bon. Et j'en conserve encore un souvenir délicieux et mon âme en a été marquée. Le temple, c'est le rassemblement de ceux qui cherchent le Seigneur. Mais le temple, c'est aussi autre chose. C'est aussi ton cœur, mon frère, ma sœur. Et ce cœur, il s'agit de l'ouvrir tout grand. Et dans la foi, pour accueillir le Seigneur, Jésus n'a-t-il pas dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi, une relation, une communion, sa présence. Sans cela, sans ce cœur ouvert, tu peux rester étranger alors que même à côté de toi, d'autres bénéficient de la présence de Dieu. C'est terrible ça, vous savez. Quand on voit des gens qui sont effectivement visités par le Seigneur, manifestement, la gloire de Dieu les envahit à côté, là. Il y en a un, c'est un vrai glaçon. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Est-ce que Dieu a décidé de bénir l'un et pas l'autre ? Non. Ça se situe au niveau du temple, au niveau du cœur. Quelque part, il y a un cœur ouvert et à côté, il ne l'est pas. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et donne à Dieu tous les droits sur ta vie. Et peut-être même de te conduire hors des sentiers battus. Vous savez, des fois, on a cadré notre vie chrétienne. Ouh, c'est comme ça, c'est comme ci et c'est comme ça. Et si c'est pas comme ça et c'est pas comme ci, je veux pas. Eh bien, laisse tomber les barrières. Et laisse le Seigneur t'envahir de sa présence. Et faire de toi non pas un mystique, un farfelu. Si ça t'arrive, on te tapera sur l'épaule, on te dira, oh, oh, calme-toi. Mais laisse le Seigneur entreprendre dans ta vie l'œuvre qu'il veut entreprendre et te conduire là où il voudra. Peut-être là où tu ne voudras pas. Vous savez, Jésus a dit à Pierre une fois, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Il indiquait cela par cela de la mort dont Pierre glorifierait Dieu. Mais enfin, il n'y a pas que ça, vous voyez. Hein? Il a fallu qu'à un moment, Pierre lâche prise, qu'il accepte que le Seigneur prenne les choses en main. Et dans la présence de Dieu, Il faut donner à Dieu le droit de tout faire dans notre vie, de nous conduire là, lui-même, où il veut. En conclusion, vous savez, Marie de Béthanie, elle avait un cœur ouvert, cette fille. Hein? Un cœur bien disposé, un cœur humble. Elle était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Ça lui suffisait. Elle était tout simplement heureuse, Marie, de bénéficier de sa présence. Et Jésus a dit qu'elle avait choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. Marthe, à côté, elle s'activait. Elle était agitée. Alors Jésus lui fait ce reproche affectueux. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a compris. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Je crois qu'il nous faut cesser d'être des inquiets et des agités perpétuels et que nous apprenions à chercher le Seigneur. Hein? On vit dans une société où on veut toujours nous faire aller vite. Vous avez remarqué? Hein? Même pour la télé aujourd'hui, c'est super. Avant, il fallait se lever du fauteuil, dites, faire 3 mètres et allumer le... Maintenant, mais il y a un progrès considérable. Considérable! Tu peux rester dans ton fauteuil avec le petit machin, là, zap! Et puis tu zappes, moi j'ai une fille, tu peux jamais regarder le programme que tu veux parce que ça passe toujours d'une chaîne à l'autre. Hein. Elle suit plusieurs séries de télé à la fois. Moi j'y comprends rien. Hein. Mais c'est chouette ça, tchac. Rendez compte, l'effort qu'on s'est épargné. Heureusement qu'il y a des ingénieurs quand même. Hein. Et alors on a cet état d'esprit, vite. Et des fois on ne prend pas le temps. Nous ne prenons pas le temps. On chante, vous savez, on chante des fois, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, ben que ce soit vrai. Et peut-être si ce n'est pas trop vrai, pas suffisamment, on pourrait dire, toi-même Seigneur, assoiffe-moi de ta présence. Assoiffe-moi de ta présence. Alors, j'entends ce que certains sont en train de penser. Ça me parvient jusqu'ici. Ils se disent, oui, frère, mais ça, c'est bon pour les pasteurs. Ils ont que ça à faire. Mais nous, on a le travail. On a la fatigue. On a la famille. On a les soucis quotidiens. Et puis, on a peu de temps. C'est vrai. C'est vrai. Et Dieu le sait. Et il ne s'agit pas d'être de doux rêveurs, voyez, un peu évaporés, là. Non. Mais vous savez, Dieu peut nous donner beaucoup de lui-même en peu de temps. Amen. Nous avions un frère à Toulouse, il est décédé maintenant auprès du Seigneur. Il était pâtissier et les heures de travail, il ne les comptait plus. Hein. Très tôt le matin. Alors il disait ceci, voilà, je me lève, je ne sais plus à quelle heure il se levait, 3 heures ou quelque chose comme ça. Il allait à son atelier là. Il lançait le travail, lançait les machines et il disposait d'un certain temps avant que ses ouvriers n'arrivent. Et cette période de temps, là, ce petit creux, vous voyez, entre le moment où il avait lancé ses machines et le moment où les ouvriers arrivaient, il le consacrait à chercher la présence de Dieu. Oh, ce n'était pas un grand intellectuel, mais je peux vous dire que c'était un homme de Dieu. Et c'était un homme de prière. Et quand il est arrivé à la retraite, eh bien, dans les réunions de prière, mes amis, sa présence, elle a mené quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu avec lui. Et il n'avait pas acquise cette, ou reçu cette présence de Dieu simplement en l'amenant parce qu'il était à la retraite. Non, non, non. C'était l'affaire de toute une vie. Toute une vie. Alors que Dieu fasse de vous et de moi des gens qui aiment, qui désirent, qui cherchent et qui trouvent, alléluia, la présence du Seigneur. Soyons comme Josué qui ne sortait pas du milieu de la tente parce qu'il avait appris à aimer la présence de Dieu. Amen. On prie le Seigneur. gloire à Dieu. Notre Père, nous te rendons